à bâton rompu.
À bâton rompu.
À bâton rompu, une émission proposée par Bruno Cyr.
Xavier Patier, bonjour.
Bonjour.
Xavier Patier, merci d'être là pour ce deuxième entretien où on va parler cette fois-ci de l'écrivain qui est en vous et qui est un fil rouge de votre vie, puisque je rappelle à nos auditeurs que vous avez publié une bonne quinzaine de romans, une dizaine d'essais, une pièce de théâtre et quelques nouvelles sur lesquelles on passe. Donc, s'il y a une constante chez vous, c'est quand même vos relations avec les éditeurs et un public fidèle de lecteurs. Alors, parmi les romans, il y en a quelques-uns qui ont été distingués plus que d'autres, parce que vous avez eu de nombreux prix littéraires. Mais j'en citerai deux qui diront peut-être quelque chose à nos auditeurs. C'est « Heureux les serviteurs », un très beau titre, un très bel ouvrage que je conseille de prendre ou de reprendre. Et puis « Le silence des termites », qui est un ouvrage dont le titre également était assez accrocheur et qui a eu un succès. Tout ça, ça, c'était aux éditions de la Table Ronde. « Heureux les serviteurs », c'est au Serre, je crois. Et puis, parmi les essais, et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, il y en a un qui est particulièrement séduisant, celui que vous avez écrit sur Blaise Pascal. Blaise Pascal, la nuit de l'extase. Alors, c'est aux éditions du Cerf, c'est sorti en 2014, donc ça a déjà 10 ans, mais je ne saurais trop conseiller à nos lecteurs de prendre ou de reprendre, s'ils l'ont eu l'occasion de le lire, cet excellent ouvrage qui, encore aujourd'hui, sert de référence dans de nombreux cercles et qui essaye de nous raconter un peu le parcours de cet Auvergnat, comme vous. C'est peut-être pour ça que vous avez cherché sur le...
Je suis pas Limousin.
Limousin, bon, pas très loin. Mais de cet Auvergnat qui a eu quand même un destin tout à fait extraordinaire, qui est mort finalement très jeune à notre époque. Il est mort à 39 ans. Mais c'est vrai que vous me disiez vous-même que Racine disait « Pascal est mort de vieillesse ». Bon, à 39 ans, ça peut paraître bizarre. Mais c'est un homme qui a eu une vie extrêmement pleine et qui a laissé une trace énorme en peu d'années. Alors, je voudrais que vous nous parliez, vous qui avez beaucoup travaillé sur et marché dans les pas de Blaise Pascal, pour bien le comprendre. Qui était Blaise Pascal?
Alors, Blaise Pascal, Julien Gray disait « c'est le plus grand des Français ». Et ce n'est pas inintéressant parce que Blaise Pascal, c'est un homme d'abord du XVIIe siècle, de cette période de où la France, au début du règne de Louis XIV, a donné les clés à des intellectuels, justement, et où la question politique, la question théologique, la question métaphysique est devenue au premier plan. Et Blaise Pascal est un génie universel, puisqu'il était à la fois mathématicien, physicien, théologien, moraliste et très grand écrivain. Il est né effectivement à Clermont-Ferrand, fils de magistrat, d'un conseiller à la Chambre régionale des comptes de l'époque, qu'on appelait la Chambre des aides de Clermont. Et il avait ceci de particulier qu'il est né dans un monde d'effervescence intellectuelle. Il faut voir qu'à cette époque, les grands noms, Molière, Colbert, Bossuet, sont souvent des fils de magistrats, de tapissiers. C'est l'aristocratie qui avait le pouvoir jusqu'au règne de Louis XIII s'est fait exproprier par Louis XIV au profit des intellectuels. Et le père de Blaise Pascal, Étienne Pascal, était de cette génération de Louis XIII, et Blaise Pascal est devenu un très grand homme de sa génération, sur le modèle, en fait, même Pierre de Fermat, pareil, magistrat, mercène, ces magistrats qui se mettent à faire des maths et à repenser le monde. C'est un peu ça. Donc, ce que nous a laissé Blaise Pascal, c'est d'abord effectivement des découvertes de la physique majeure. Il a inventé la seringue, il a inventé la machine à calculer.
Oui, la machine à calculer. Le fameux triangle de Pascal.
Le triangle de Pascal. Il a inventé aussi une nouvelle manière de parler le français. C'est-à-dire que le français que nous parlons doit beaucoup au ton que Blaise Pascal a adopté. Et puis surtout, il a inventé un homme capable de résister à la fois au fantasme de la Renaissance, l'abolition comment dirais-je, sens du péché, qui est très typique de ce retour à l'Antiquité païenne, et puis en même temps, de résister aussi aux excès des Lumières qui lui ont succédé, c'est-à-dire à créer un homme transcendant. Blaise Pascal nous a appris que nous étions capables de Dieu. C'est ça qui est important.
Capable de Dieu, vous voulez dire ?
Il dit l'homme est capable de Dieu. Et sa perversité l'en rend incapable. Ça, c'est l'apport de Blaise Pascal.
Ah oui, c'est une phrase intéressante. Oui. Et je n'avais pas noté ça. C'est dans les pensées ?
Oui, oui, ouais. C'est dans les pensées.
Alors, les pensées, c'est un ouvrage qui est universel. C'est-à-dire que je pense que tout bon humaniste doit, à un moment dans sa vie, passer par là. Et d'ailleurs, vous dites dans votre livre, à un moment, que ça a marqué les générations encore aujourd'hui. Hein, il y a une permanence dans les pensées.
Les pensées, d'abord, effectivement, on pense en fonction des pensées. Le divertissement, enfin, toute l'analyse de l'incapacité de l'homme à se créer lui-même une morale, c'est dans les pensées, on est encore en plein dedans. Et puis, il y a les provinciales. Les provinciales, c'est une manière de s'adresser. Mes révérends pères, mes pères. Quand ils s'adressent aux jésuites, en fait, il annonce déjà le j'accuse de Zola. Et je veux dire, il a inventé une manière jubilatoire d'argumenter qui était totalement inédite quand il a commencé à écrire.
Oui, vous dites, j'avais noté cette phrase dans votre ouvrage, page 155, vous dites « Son ironie fait des morts. Le Blaise Pascal, d'après 1654, invente un certain ton que tous les pamphlétaires après lui reprendront. Daudet, Blois, Bernanos, Mauriac, Clavel n'auraient jamais écrit de la même manière si les provinciales n'avaient pas existé. »
Oui, ça j'en suis persuadé. Je dirais même que Zola n'aurait pas écrit son J'accuse sur le même ton si les provinciales n'avaient pas existé.
Alors, comme vous êtes quelqu'un qui a quand même beaucoup d'humour, j'ai noté aussi quelques lignes plus bas, une note un peu drôle quand même. Aujourd'hui, les éditoriaux du Monde n'auraient pas le même ton sans les provinciales, ni les titres de Libé, ni les billets du Figaro. Tout comme, et c'est là l'originalité, Christian Zimmermann ne jouerait pas Chopin de la même manière si le moteur à explosion n'avait pas été inventé. Oui, vous êtes bon, fait plaisir.
C'est un peu de la littérature. Mais c'est vrai que Zimmermann, mais c'est vrai aussi de Lang-Lang, je ne sais pas ce qu'en penserait Chopin, il n'est pas là pour nous le dire, ont tendance à être précautionneux quand la mélodie monte, et précipitée quand elle descend. Enfin, je caricature, mais Chopin était un amoureux du bel canto, et à son époque, les chevaux, parce que c'est à l'époque, c'est la traction à cheval, je parle à un cavalier, je crois, ils ont tendance à accélérer dans les montées, à freiner dans les centres. Le cheval, il se méfie quand il descend.
Oui.
Et il accélère quand il monte, parce qu'il se dit, comme je fais un effort, plus je vais vite, moins ça durera longtemps. Et donc, effectivement, je pense que Zimmermann, s'il n'y avait pas eu le moteur à explosion, aurait joué avec un legato un peu différent.
Et oui, les voitures montent moins vite, elles descendent plus vite. c'est une belle, une belle traversée. Il n'en reste pas moins que Pascal, au-delà du scientifique, du mathématicien, est aussi un pamphlétaire et effectivement a un ton qui est très nouveau pour l'époque. C'est ça, au fond, que vous nous dites. C'est-à-dire qu'il... Et alors, comment ça se passait? Parce qu'il n'y avait pas les journaux qu'il y a maintenant. Il publiait des...
Les provinciales l'ont rendu extrêmement lu. Pas sous son nom, parce qu'il signait Louis de Montalde. Il avait un pseudonyme, mais enfin, c'était un peu un secret de polichinelle. Eh bien, c'était distribué. C'était des billets qui étaient distribués un peu partout, qui étaient imprimés, réimprimés. Il les travaillait beaucoup, puisque je ne sais plus quel de ses amis, Nicole, je crois, dit certaines provinciales, il les a réécrites 8 fois, avec le souci d'être le plus intelligible possible. Et en fait, si les provinciales ont été un espèce de succès culturel en France, c'est parce qu'il exprimait ce que les gens ressentaient profondément. C'est-à-dire le désir de retrouver une relation de la France chrétienne avec Dieu qui ne soit pas encombrée de casuistique jésuite venu de l'étranger. C'était ça, en fait, le fondement de l'extraordinaire succès des provinciales.
Et alors, j'avais noté quelque part que vous disiez qu'au fond, il n'avait pas le temps de se préoccuper du bonheur. il n'était, parce qu'à un moment, on se dit, mais cet homme qui avait une vie, qui vivait à 100 à l'heure, il n'avait pas le temps de se préoccuper du bonheur. Aussi, Pascal n'a jamais prétendu être heureux. Il n'avait pas le temps. Il était homme d'action. Il a connu le soir du 23 novembre un débordement de joie. Il en a pleuré. Il a écrit joie. Il n'a pas écrit bonheur.
Oui, je crois profondément. Le bonheur, dans la vision pascalienne, même s'il ne l'a pas dit explicitement, ce n'est pas un objectif digne d'un chrétien. On doit vouloir plus que ça. Le bonheur au sens matériel qu'on entend aujourd'hui, c'est-à-dire on décrit les accessoires du bonheur, c'est-à-dire le confort. Il pense qu'on mérite mieux que ça. On mérite quoi ? On mérite la joie, qui est un don, qui n'est pas une conquête obtenue après un dur travail d'économie et d'investissement. Donc, effectivement, il a écrit joie dans son bulletin, dans son pense-bête de la nuit de feu. Il n'avait pas écrit bonheur. Le bonheur, ça l'intéressait moins que la joie. D'ailleurs, il était assez grand, si j'ose dire, même mort jeune, pour savoir que le bonheur ne se découvre généralement que lorsqu'il a disparu. On ne vit pas au présent, le bonheur. On le vit sous forme de nostalgie, c'est ça.
On le vit après, oui.
Oui.
Quelle période heureuse ça a
c'était,
été.
C'était, voilà.
Oui. Eh bien, écoutez, dans cette année qui est une année sainte, une année d'espérance, je trouve que cette parole est pleine de bon sens et pleine d'écho. Merci Xavier Patier pour ces éclairages sur la vie de Pascal. Et je donne rendez-vous à nos auditeurs la semaine prochaine pour que l'on parle de cette fameuse nuit de l'extase qu'a connue Pascal et que vous décrivez si bien dans votre ouvrage. Merci.
Merci.